Alors oui, effectivement, pourquoi le ping-pong? Parce qu'en fait, c'est une question que tout le monde se pose. On se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Pourquoi on n'en a pas entendu parler auparavant? En fait, tout simplement parce que y a eu une étude au King's College à Londres en 2015 où ils ont fait une étude autour de la pratique du ping-pong au Népal. Donc, ils ont fait beaucoup d'imagerie mentale à ce moment-là. Et ils se sont rendus compte que le ping-pong stimulait énormément les zones du cerveau, mais surtout l'hippocampe. Et de là, ils se sont réorientés sur une étude qui avait été faite au Japon dans les années 90. Et on reprend encore un petit peu les mêmes informations sur la stimulation au niveau du cerveau. Et en fait, on s'est rendu compte que le ping-pong, parce que ça va vite, parce qu'il y a beaucoup de stimulation, parce que ça va à droite, gauche, les effets, les changements de vitesse, de trajectoire, couplé à l'activité physique, faisait une activité très intéressante. Donc en 2015, j'avais vu cette petite étude. Donc moi, je suis un professionnel du sport, donc j'étais plutôt intéressé par la pratique sportive et ses intérêts dans la santé. Naïvement, je suis allé voir Claire Paquet, donc le docteur qu'on voit sur la vidéo, et je lui dis, bah, ce serait super qu'on développe quelque chose avec du ping-pong. Moi, je peux mettre à disposition la salle. On peut faire peut-être une étude dans un deuxième temps, voir quel est le réel impact. Et donc là, il m'a raconté que pour faire une étude scientifique, il fallait avoir énormément de patients qui viennent jouer au ping-pong. Il y en a qui doivent venir mais ne jouent pas, d'autres qui viennent qui jouent, et qu'il fallait les suivre pendant un certain nombre de mois, ce qui était une logistique très très lourde pour nous. Donc finalement, ça s'est jamais fait. Et en 2018, à force d'en parler à plusieurs personnes dans mon entourage, au club de ping-pong où j'étais, il y a une psychologue et un kiné qui étaient assez chauds pour qu'on lance quelque chose. Donc on a créé un contenu pour un cycle très adapté aux malades d'Alzheimer, au niveau surtout de l'accueil, au niveau de l'approche autour du couple aidant-aidé, et après sur la partie thérapeutique du sport santé. Et donc on a commencé avec un tout petit groupe, on était à peu près 6. Rapidement, France Alzheimer 92 a entendu parler du programme, donc ils sont venus essayer. Et depuis, ils sont fidèles, donc ça fait 4 ans maintenant, donc c'est la quatrième année du programme, où il y a un groupe à peu près d'une vingtaine de malades qui viennent 2 fois par semaine, accompagnés de leurs aidants. Donc ce programme se reposer au tout départ sur 3 piliers qui ont été prouvés scientifiquement. Donc moi, je ne vais pas m'avancer dans des propos scientifiques parce que ce n'est pas ma spécialité. Mes prédécesseurs ont été à un niveau largement au-dessus. Mais dans tous les cas, il y a eu quand même des études assez intéressantes à l'étranger sur l'intérêt de garder un malade actif, même après avoir eu le diagnostic. Et donc les 3 piliers qui sont là sont les bases un petit peu du programme. Donc le premier, évidemment, c'est l'activité physique. Donc l'activité physique, par son bien-être qu'elle provoque, par l'oxygénation du cerveau, par l'amélioration du système cardiovasculaire, on a un réel intérêt. Donc dans le cas du ping-pong, l'activité physique va être assez limitée et va être beaucoup moins violente que si on faisait du tennis ou si on faisait de la course à pied. Et en fait, on a un autre avantage dans le ping-pong, c'est que c'est un jeu au départ. Et donc, au final, un malade qui va arriver pour la première fois, qui n'a jamais été très sportif et qui n'est pas trop branché pour aller faire une marche de 10 km, il va arriver dans la salle avec une approche très ludique, très simple, avec beaucoup de bienveillance. Et on se rend compte que le ping-pong, finalement, c'est une activité qui a toujours paru sympa dans la conscience collective. Et on se met à jouer très facilement et très rapidement. La stimulation cognitive, on revient justement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est sur une activité où on va taper la balle des dizaines et des dizaines de fois en 1 minute, alors que si on passait par exemple sur du tennis, en dehors de l'aspect plus violent du sport, vous allez toucher la balle peut-être 5-6 fois en 1 minute. Donc il y a un plus grand intérêt sur le ping-pong, mais cette partie-là, c'est la partie qui reste à prouver scientifiquement. Mais en tout cas, on a une stimulation cognitive assez forte parce que de l'imagerie mentale a été faite sur tous les sports. Et les interactions sociales, donc tout à l'heure, on a entendu parler justement au niveau de la prévention de l'isolement social, de tout ce qui est surdité, etc. Les interactions sociales sont très très importantes à préserver. Et donc pour nous, il est important au sein du programme que pendant le moment d'accueil, que pendant les pauses, que pendant le moment de se rhabiller, on ait des moments de discussion, on ait des moments d'échange. On va parler un petit peu du quotidien, de comment s'est passée la semaine. On va nous raconter des anecdotes autour du sport, autour du ping-pong dans le passé. Et ça, c'est des moments qui sont vraiment importants et indispensables pour que la science se déroule comme on l'a prévu. Donc finalement, ce programme qui paraît d'une approche très simple va plus loin que l'aspect récréatif du tennis de table. L'idée, c'est vraiment d'avoir une régularité dans la pratique pour qu'il y ait des bienfaits. Pour l'instant, nous sommes donc on l'a lancé en 2018 à Levallois. Et nous sommes maintenant une quinzaine de clubs à avoir lancé le programme. Donc comme vous le voyez ici, le contenu des exercices de ping-pong et de tennis de table et d'équilibre, parce qu'on fait aussi des exercices d'équilibre, sont très adaptés en fonction du stade de la maladie. Donc on a accompagné des personnes malades jeunes, on a accompagné des malades qui avaient 87-90 ans. Donc c'est très adaptable et très flexible comme type de pratique. On avait à faire pratiquer quelqu'un avec le filet, quelques malades jouent sans filet, quelques malades jouent assis, quelques malades vont jouer avec un soutien pour se tenir près de la table. Donc on essaye de vraiment s'adapter parce que, encore une fois, moi je ne suis pas spécialiste d'Alzheimer, enfin je ne l'étais pas. Et il faut aussi avoir une approche adaptée avec chaque maladie apparentée. Parce qu'on a un malade qui a Cordes-Lévis notamment, qui vient avec nous toutes les semaines et ça se passe plutôt très bien. On a un autre malade qui avait le syndrome de Benson. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais le syndrome de Benson, c'est un syndrome où la vision va être très limitée. Donc la personne va avoir la balle un peu au dernier moment. Donc on a développé tout un contenu d'exercices adapté à quelqu'un qui a cette pathologie-là. Et notamment un patient de Madame Claire Paquet, qui, elle ne voulait pas qu'il vienne d'ailleurs pour éviter un peu les situations d'échec. Et finalement, il est venu, on a adapté, on a été très très progressivement, et maintenant il passe des très très bons moments. Et on finit par les jeux d'équilibre. Donc chaque séance est entrecoupée à un moment par des jeux d'équilibre, donc on les fait par un ou par deux, pour justement prolonger au maximum l'autonomie, parce qu'on sait encore une fois que sur la maladie d'Alzheimer, une chute à la maison ou dans la rue peut être traumatisante, en dehors de l'aspect hospitalisation qui peut encore accélérer l'avancée de la maladie. Nous, on est beaucoup sur le travail de la confiance en soi, de la bienveillance et vraiment prolonger l'autonomie grâce à ces jeux d'équilibre. Et j'ai oublié le travail de mémorisation que l'on fait avec les ancrages. Donc chaque situation de jeu, chaque exercice, on va le présenter d'une certaine façon, avec les mêmes mots, de la même manière. Et le jeu d'équilibre, c'est à peu près la même chose. On utilise toujours des mots assez spécifiques pour chaque position. Et on s'est rendu compte qu'avec des malades qui étaient à un stade très avancé, donc notamment des malades jeunes qui, au bout d'un moment, ne peuvent plus aller chez le kiné et ne peuvent plus non plus aller chez l'orthophoniste, quand ils continuent à venir au ping-pong, ils arrivent quand même à faire les jeux d'équilibre parce qu'il y a une sorte de mémoire fonctionnelle qui est là, et ils arrivent quand même à reproduire certaines positions. Et ça, c'est très étonnant. Donc, on est encore aux prémices de tout ce qu'on a perçu chez ces patients-là, mais c'est très prometteur. Donc ça, c'est la partie qui est vraiment dédiée aux malades. Après, on a eu des bénéfices connexes qu'on n'attendait pas. Donc le premier, tout d'abord, est très important, c'est le répit des aidants. Donc en fait, les aidants, il y en a certains qui viennent, qui prennent plaisir à rester, à nous aider à encadrer le groupe, qui prennent plaisir à jouer aussi avec d'autres aidants, avec des bénévoles de France Alzheimer ou avec des bénévoles du club. Et ils passent un très bon moment. Donc, comme je le disais sur la vidéo, on a des aidants qui continuent à venir même après que le malade soit placé ou que le malade ne puisse plus venir. Et il y a vraiment une inclusion des aidants qui est très importante parce que, comme vous le savez sûrement beaucoup d'entre vous, c'est une maladie qui va happer tout le cercle familial proche et on prend vraiment plaisir à revenir se retrouver dans un lieu de vie qui est une association sportive. On a également ouvert la salle aux petits-enfants pendant les vacances scolaires. Donc certains malades viennent pendant les vacances scolaires avec leurs petits-enfants et ils sont fiers de montrer leur progrès et ils vont jouer 15 minutes avec leurs petits-enfants. Et au lieu que l'ado de la famille se retrouve à jouer sur son smartphone, bah, il va jouer au ping-pong. Donc c'est aussi un super moment qu'on n'avait pas spécialement anticipé et ça fonctionne très très bien. Donc, sur les malades jeunes, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quelques activités où ils ne voulaient pas aller, notamment organisées par d'autres associations, parce qu'ils trouvaient que c'était trop vieillissant. Et ils prennent plaisir à venir dans une activité sportive parce qu'ils se retrouvent un petit peu avec plein de monde d'origines différentes. Et tout le monde est mélangé. C'est vraiment un point important où on essaye de ne pas trop stigmatiser. Et également, on s'est rendu compte que sur certains exercices, la concentration de certains malades était améliorée. Donc là, encore une fois, je m'avance beaucoup. Je n'ai pas de données scientifiques, mais c'est simplement sur des observations très pratiques. Nous avons l'exemple de Étienne, qui est un malade, jeune malade de 65 ans qui est arrivé il y a un an à peu près. Et donc sa femme arrive et vient nous voir. Elle me dit, on vient faire un essai, parce qu'en fait, Étienne, il a toujours été très dynamique. Et à la maison, on fait un peu de peinture, mais il va faire de la peinture pendant 5 minutes et après, il va partir se balader. Après, on va cuisiner ensemble. Il va cuisiner pendant 3 minutes et après il part dans le salon et il veut sortir. Donc il voulait essayer et finalement Étienne est arrivé au ping-pong. Il était gaucher. Il s'est mis à jouer au ping-pong de la main droite alors qu'il n'a jamais rien fait de la main droite. Et il a joué pendant 1h30 sans s'arrêter. Donc c'était incroyable. Donc ça, moi je ne le voyais pas en tant que bénéfice direct parce que Étienne, je ne le connaissais pas en dehors. Mais à chaque fois qu'il vient au ping-pong, il arrive à rester concentré au moins une heure et demie sur une activité. Donc ça, apparemment, c'est très étonnant. Et c'est quelque chose que l'on retrouve souvent. J'ai un deuxième exemple qui date depuis peu, là, depuis la rentrée. Donc on a une dame, Marie-Pierre, qui a aussi quelques petits problèmes de déambulation. Donc elle va jouer un petit peu. Et puis à un moment, elle commence à se balader dans la salle. Donc on la laisse, on discute un petit peu avec elle. Et puis à un moment, on s'est rendu compte qu'elle chantonnait un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un smartphone sur la table avec Carmen. Et là, elle est restée devant la table pendant une heure à faire le chef d'orchestre en jouant au ping-pong. Et elle n'a pas bougé de sa table. Et c'était incroyable aussi. Donc on trouve comme ça des petits tips pour essayer de les mettre dans une bulle pour qu'ils puissent rester plus longtemps sur l'activité. On a des pistes, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vraiment le terrain qui nous apprend tout ça. Donc voilà, donc comme je vous disais, on a lancé le programme à Levallois en 2018. Maintenant, il y a 15 clubs qui lancent le programme. Il y a une quarantaine de clubs qui sont sur une liste d'attente pour qu'on puisse mettre en place un programme pérenne sur leur territoire. Et on a formé deux établissements médico-sociaux. Donc il y a un foyer de vie dans le 77 et il y a un groupe d'EHPAD à Toronto qui lance l'activité, mais au sein de l'établissement médico-social. Donc l'intérêt, encore une fois, pour eux, c'est d'avoir un lieu mixte pour les visites, qui soit aussi un lieu de pratique toutes les semaines, de façon un peu plus thérapeutique. Donc ça permet, encore une fois, de garder un lien avec la famille beaucoup plus fort, et surtout que la visite, au moment où il y a moins d'échanges au niveau de la parole, ça soit une visite conviviale, agréable, où toute la famille puisse s'impliquer. Voilà, donc ça c'est. J'ai fait une présentation rapide parce que je sais qu'on était un tout petit peu en retard. Donc voilà, donc ça c'est le programme qui a été lancé. Donc on attend qu'il y ait un tout petit peu plus de pratiquants pour essayer de passer au niveau du dessus et voir quelles sont les études et les données les plus importantes à définir pour voir s'il y a un réel impact. Et puis, on est très motivés sur le terrain. Il y a un réseau de clubs, il y a un réseau d'associations très, très motivés sur le terrain. Donc, nous, on est vraiment plutôt de ce côté-là. Donc, je remercie encore à tous ceux qui sont sur le terrain avec nous pour nous mobiliser autour de la maladie d'Alzheimer. Merci.
Merci beaucoup, Renato Valkoviak.